Et là, qu'est-ce que j'entends? Eh ben, je te donne en mille. Binge audio.
Mes pauvres amis, on est passé si près de voir la gauche au second tour. Et maintenant, que faire à part ruminer notre déception? Vous vous souvenez de quand on était encore horrifiés que l'extrême droite soit au second tour? Vous vous souvenez des manifs d'avril 2002, de la chanson de 16, 20% pour l'horreur, 20% pour la peur? Moi, ce sont mes premiers souvenirs politiques. Une des premières manifs où je suis allée de mon propre chef, pas pour suivre mes parents hippies. Maintenant, l'extrême droite fait 30% si on additionne Le Pen et Zemmour, et plus personne ne fait de chansons ni de manifs. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à voter contre, à voter utile. Alors là, faut-il encore se retaper de voter Macron? Je sais bien que je vais le faire, moi, à contre-cœur, avec l'amère certitude de nourrir la main qui nous mord, et l'impression d'être acculé, de ne pas avoir le choix. Annie Ernaux dans Libération résume parfaitement ce que nous ressentons tous, je crois. Un sentiment de contrainte. Elle écrit « Ce sentiment de contrainte, je l'ai éprouvé pendant tout le quinquennat de Macron. Derrière l'arrogance, il y a une main de fer. Tout ce qui a été imposé pendant ces 5 dernières années l'a été avec l'apparence de la concertation. Alors, ok, on se recoltine un vote utile, un vote suprêmement utile même, parce que l'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Mais après, comment faire? Comment faire pour ne plus être dans une posture défensive? Comment faire pour ne plus voter contre, mais construire pour?
Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable.
On peut plus rien dire.
Vraiment, c'est n'importe quoi.
On peut plus rien dire.
Et la prochaine fois, ça sera quoi?
On peut plus rien dire.
Qu'est-ce que c'est que ça?
On peut plus rien dire.
Bienvenue dans ce nouvel épisode d'On peut plus rien dire. On va faire contre mauvaise fortune, bon cœur et essayer de passer un bon moment tous ensemble. Enfin, tout ensemble d'ailleurs. Parce que à mes côtés, j'ai le bonheur d'accueillir Latifa Oulqueer. Bonjour Latifa.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et directrice du Bondy Blog. Et Alice Coffin, qui d'ailleurs revient pour la deuxième fois à notre micro, qui est militante féministe, autrice du génie lesbien, qui a été proche de Sandrine Rousseau durant sa campagne et conseillère de Paris. Bienvenue Alice.
Bonjour.
Alors, première question, j'ai envie de vous demander comment ça va? Comment vous vous sentez au lendemain de ce premier tour? Peut-être Latifa Oulqueer en premier.
Mieux que dimanche soir. En même temps, c'est pas compliqué. Mais oui, je pense comme plein de gens un peu... qui regardent un peu d'un œil circonspect cet entre-deux-tours et les résultats de dimanche et qui se posent plein de questions. Pas seulement sur pour qui voter, hein, mais... se pose plein de questions sur le paysage politique tel qu'il a été redessiné depuis dimanche soir.
Et vous, Alice Coffin?
Moi, j'ai découvert, je suis rentrée en fait, j'étais tout le mois de mars pratiquement à la frontière polonaise et en Ukraine pour aider les réfugiés, notamment lesbiennes, mais les femmes réfugiées ukrainiennes, à passer la frontière, à trouver des points d'attache dans d'autres pays européens. Donc c'est le décalage, j'allais dire, assez profond. Et c'était vraiment, je dis ça pas pour parce que c'est important, je pense, de sans arrêt avoir l'Ukraine en tête, mais aussi parce que est-ce que ça valait le coup aussi? Moi, je vous l'avais dit, je suis conseillère de Paris, je suis maintenant engagée en politique. Ça veut dire quoi de partir, même s'il y a une urgence? Ça veut dire quoi de partir toutes les trois dernières semaines? Je crois que c'était aussi tout ça pour dire que c'était pas de grosse surprise, en fait, hélas, dimanche soir, que la seule chose qui aurait pu arriver, c'était éventuellement une bonne surprise.
Un miracle.
Je me laissais... Un miracle, je sais pas, parce que, toujours pareil, on a déjà eu l'occasion d'en parler à ce micro, je crois pas tellement à l'espoir, je crois en l'action, donc je sais pas si tout avait été entrepris, en tout cas, pour que ça puisse se faire autrement.
Alors, on va pas faire de popole. La popole, c'est comment font les journalistes traditionnels, comment ils étudient la politique. Mais quand même, j'ai envie de vous poser une question, parce qu'on a appris, vous avez révélé sur BFM que vous avez voté Mélenchon quand même. C'est badass, ça.
Bah, précisément, c'est pour ça que je me dis que le seul point, en fait, qu'il y aurait eu à faire davantage au mois de mars, moi, je m'étais dit qu'à un moment, il fallait qu'on écrive entre élus écologistes, élus communistes, éventuellement, si on avait trouvé un peu d'élus aussi socialistes pour le faire, et notamment des femmes, des féministes, que je savais être très, très en colère par rapport aux agissements, que ce soit côté communiste ou écologiste, de la direction de leur parti ou de la direction de campagne.
Ah oui, donc vous avez œuvré dans l'ombre
qu'il fallait, voilà. Et moi, j'avais déjà... Je fais jamais les trucs, je débarque pas en disant « Ah, vous êtes vraiment des gros nulos, même si je le pense. » Je le dis aussi avant. Donc, c'est des choses, évidemment, que j'avais déjà dit, que j'avais déjà tenté de dire, notamment la nécessité de discuter avec la France insoumise, voire plus que de discuter, de se rallier. C'était absolument pas les optiques, la stratégie.
Oui, c'était. Choisie. Il a envisagé Jadot à un moment, vous
non,
croyez?
Non, pas du tout. C'était absolument pas. Je crois que c'était même pas discutable et que je me souviens de silence poli ou hostile lorsque j'avais pu évoquer cette perspective. Et pourtant, c'est ça, je pense, que ce qui était important de faire, de tenter de faire. Donc oui, non, révéler d'avoir... je n'allais même pas dire j'ai voté Mélenchon, en fait. J'ai voté pour la candidature la mieux placée pour que la gauche puisse accéder au second tour. Et ce qui me paraissait quelque chose d'évident à faire. Ouais.
Latifa, ou le queer, Mélenchon a aussi obtenu quasiment une voix sur deux dans le 93, donc le département où est situé aussi le Bondy Blog. À votre avis, comment il a réussi à convaincre dans ce département ou dans les quartiers populaires?
Ouais, c'est vrai qu'il a réalisé un score assez incroyable en Seine-Saint-Denis. On note quand même que l'abstention a été plus forte qu'en 2017. Et ouais, pareil qu'au premier tour, Macron, qui avait eu 24%, là, n'en a plus que 20, entre guillemets. Donc, je pense que ça tient aussi un peu à ça, en fait. À une grande. Enfin, il y avait dans les quartiers populaires en 2007 pas mal de gens qui croyaient en Macron parce qu'ils se disaient, bon, il y a l'aspect économique, mais peut-être que sur les questions identitaires, religieuses, etc., il va être un peu plus tranquille. Il va nous foutre la paix là-dessus. Donc, bon, les gens de gauche, c'était pas forcément très heureux qu'il soit élu, mais les autres, hein, sans, voilà, c'était dit, bah tiens, ouais, et puis peut-être l'aspect, on va pouvoir monter nos entreprises, enfin cet aspect de réussite individuelle qui peut toucher les gens. Et pour Mélenchon, je pense qu'il a bénéficié de ça, d'en fait un quinquennat qui a été plus dur qu'on le pensait sur les questions de sécurité, sur les questions de laïcité surtout. Ça a été vraiment une surprise pour beaucoup de gens et ça a été une douche froide en fait, autant la loi séparatisme, on se rappelle de cette appellation de signaux faibles à l'égard des musulmans, ou pas mal de mosquées, associations qui ont été fermées, souvent pour des raisons sécuritaires. On nous faisait passer ça pour des questions d'intégrisme, etc. Mmh. Une politique très centrée là-dessus, alors qu'on sait que par exemple la radicalisation ne se fait pas dans les mosquées, elle se fait dans d'autres lieux, mais il y a beaucoup d'études qui démontrent que la radicalisation ne se fait pas dans les mosquées. Mmh. Et donc il y avait ça en ligne de mire. Et puis oui, effectivement, à un moment donné où le gouvernement et ça avait eu certaines dérives, notamment l'université de Cergy qui avait émis un formulaire avec des signaux faibles pour détecter la radicalisation. Le problème, c'est que ces signaux faibles-là, c'était quoi? C'était le fait de ne pas manger de porc, le fait de ne pas manger de viande non halal, le fait de ne pas boire. Donc en fait, qui sont juste des
c'est
signes
dingue.
Religieux, de la pratique religieuse.
Puisque juste de la liberté individuelle.
Pour le coup, assez classique en fait, et c'est vrai qu'on a eu à ce moment-là tout un... Enfin, et puis bon, on se rappelle de Darmanin qui a dit à Marine Le Pen qu'elle était trop molle sur la question de l'islam. Donc voilà, je pense que vraiment, quoi, dans les quartiers populaires, si on parle de ces questions-là, il y a eu juste un ras-le-bol et par rapport à ça, où finalement aussi Jean-Luc Mélenchon a été le seul à avoir une position assez claire depuis plusieurs années sur les questions d'islamophobie, de discrimination, etc. Et donc, oui, je pense qu'il y a eu, je pense qu'il y a, il a bénéficié de ça dans les derniers jours de la campagne.
Et vous, Alice Coffin, comment vous avez jugé la campagne de Yannick Jadot?
Alors,
allez-y, réagissez d'abord.
Non, mais moi, ouais. Je suis vraiment complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler, si on se remet en 2017, on sort de quoi? On sort de Valls et Cazeneuve. Et on sort quand même d'un quinquennat de gauche où on a l'essor d'une... Je ne sais pas s'il faut appeler ça le valsisme, mais en tout cas, de toute l'horreur de cette gauche, en gros...
Qui avait parlé d'apartheid dans les...
Printemps républicain, quoi. Et Macron, il se pose à ce moment-là, quand il fait sa campagne, au contraire, il fait entrevoir... Enfin, personnellement, j'étais vraiment absolument pas fan, mais là-dessus, il fait entrevoir quelque chose de... Ok, je suis un libéral, ok, mais justement, je suis aussi un libéral sur ces questions de société, et avec moi, on va arrêter avec ces crispations identitaires, d'ailleurs, que ça soit concernant cette cristallisation sur les musulmans, les musulmanes, ou aussi sur les questions LGBT aussi, hein, parce que le quinquennat d'Hollande, c'était quand même manif pour tous, etc. Et là, on a quoi ? On a, au contraire, un quinquennat Macron, on est focalisé, je le rappelle quand même, sur l'islamo-gauchisme, un ministre de l'éducation et d'autres ministres qui tiennent des propos absolument sidérants, épouvantables sur le sujet. Donc, on a une inversion, et on voit bien, bon, enfin, comme d'habitude chez Macron, qu'en fait c'était du vent. Enfin, ça, il peut être d'un côté, de l'autre, il n'y a pas...
C'est ça qui est le plus...
Zéro colonne vertébrale.
Exactement, c'est peut-être ça qui est le plus déstabilisant, sidérant, horrible, cette sensation que les mots n'ont plus aucun sens. On dit quelque chose et puis on fait l'inverse et puis c'est pas grave.
Oui, mais moi je pense que c'est une des grandes terreurs en fait de ce quinquennat Macron et qui a à la fois été extrêmement riche en mobilisation, mais précisément c'est le parallèle entre cette force des mouvements, cette force des mobilisations et des personnes au péril hein, de leur vie, de leur intégrité physique, hein, on le sait dans les manifestations. Donc cette énergie qui est là. Et rien. Et le mur. Et comme si finalement, il n'y avait plus le pouvoir politique, on n'était plus dans une possibilité d'interaction ou de vraiment modifier, avoir un poids là-dessus. Et ça, c'est extrêmement dangereux qu'effectivement, il n'y ait plus du tout de prise, en fait, sur l'action politique, parce qu'il a cette attitude complètement évaporée, en fait, sur le sujet. Et pour la campagne,
on va y revenir, j'ai plein de questions poser. Mais Latifa Oulkouir, vous parliez en introduction de comment cette élection redessine le paysage politique. Vous avez l'impression que les lignes de fracture bougent, changent, évoluent, qu'elles sont différentes aujourd'hui ?
Oui, parce que comme plein de monde, comme toute la France, en fait, j'ai grandi avec la gauche, la droite, un parti socialiste, oui. Le RPR, les Républicains, etc. Et c'est vrai que ouais, là, ça fait... En fait, c'est étrange et puis c'est un peu... Bon, là, ça tient plus à l'aspect personnel où j'aime pas trop le changement, entre guillemets, mais parce que c'est effrayant, en vrai. Quand on regarde les forces politiques là, on se dit bon, d'accord, Jean-Luc Mélenchon, mais en même temps, il est pas tout jeune. Et puis, ça a mis du temps à établir ce mouvement populaire qu'il appelle. Franchement, on se rappelle du Front de Gauche. Enfin, ça prend des années de construire ça. En fait, c'est pas anodin. Donc, c'est là où ça m'effraie aussi parce que ça a pris énormément de temps. Et en face, des forces de droite qui sont de plus en plus fortes aussi et qui, moi, ont l'air d'accaparer tout le débat. C'est parce que pendant longtemps, on a parlé des diabolisations, par exemple, du Front National qui est devenu le Rassemblement National. Moi, je pense pas que... Enfin, je fais pas partie de gens qui pensent qu'il a réussi sa dédiabolisation. En revanche, c'est les autres qui ont réussi leur radicalisation, en vrai. C'est la droite qui a réussi sa radicalisation, c'est une certaine gauche qui a réussi sa radicalisation, et c'est comme ça que le paysage politique, il s'est modifié. C'est parce que il y en a, si je peux me permettre, qui n'ont pas été droit dans leurs bottes, et qui avaient pas vraiment de colonne vertébrale, comme on disait tout à l'heure, et comme Macron. Et c'est vraiment ça, en fait. Pendant longtemps, on avait la tête dans ce truc de « Ah ouais, le FN se normalise ». Mais ouais, non, en vrai, c'était les autres le problème. On n'aurait pas dû s'occuper du Front National.
Ce qui est fou dans cette campagne, enfin, ce qui est tragique, c'est qu'elle s'est déroulée en même temps que le GIEC nous a alerté qu'il nous restait que 3 ans pour que la Terre reste habitable. Mais le climat n'a occupé que 3,6% du temps médiatique. Et le concept, je crois, qu'a marqué cette campagne, et celui qui a quand même marqué les esprits, c'est celui du grand remplacement. Même si Zemmour, il fait 7%, il a quand même gagné une bataille culturelle en mettant tout le monde à connaissance aujourd'hui de ce concept. Comment ça se fait qu'on en soit là, à votre avis, Alice Coffin ? Enfin, est-ce que vous avez une... Qu'est-ce que vous en pensez de cet état de fait ?
Alors là, c'est la question de la capacité à imposer un récit médiatique, en tout cas des concepts, des mots dans le paysage médiatique, qui demandent en fait certaines facultés, certaines compétences aux politiques, et qui souvent ne sont pas considérées, je trouve, comme déterminantes par les partis ou par les personnes qui font le choix des personnes qu'elles envoient à la présidentielle. Or, désormais, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus.
Mais oui,
c'est extrêmement important de savoir que la personne, vu le système présidentiel, hein, vu la Ve République, vu ce que c'est une élection présidentielle, une incarnation totale autour d'une personne, on se doit absolument, et je pense que la France Insoumise l'a bien compris, d'aller choisir des personnes susceptibles de manier suffisamment le verbe, la parole, pour imposer certains mots et savoir le faire. Si je prends, poser la question du climat, du temps d'antenne, c'est pas... Il y a eu un petit moment où on a réussi, moi j'ai entendu des nouveaux mots, j'ai entendu le mot écoféminisme, les notions de prédation entrées
vous parlez
justement dans le débat
quand il y avait
la campagne
de
la première écologiste. Donc c'est possible en fait de le faire, mais encore faut-il en avoir les facultés, les compétences, parce que évidemment que c'est complètement dessiné par le débat, la discussion médiatique, et ça veut dire arriver évidemment avec une pensée très forgée, très quelle qu'elle soit,
très construite.
Je veux dire très construite, mais après avoir aussi la capacité de la faire passer à un micro.
C'est vrai que quand il y a eu le débat écologiste à la primaire, on a entendu un petit peu parler, oui, de prédation d'écoféminisme. Ce seraient les concepts qui, selon vous, une fois affûtés maintenant, c'est prédation, écoféminisme, c'est cela qu'il faut... Ou vous êtes déjà en train de penser à ceux d'après ?
Non, et puis je pense à ceux d'autres, enfin, il y avait le concept de décroissance, mais qu'on soit d'accord ou pas, en tout cas, ça posait d'autres mots dans le débat public, et on voyait qu'il y avait un intérêt qui était suscité, qu'on soit pour, qu'on soit contre,
c'est vrai.
L'histoire de déconstruction, les histoires de... Bon, voilà,
non, mais bien sûr, même si on pense que le grand remplacement, même si on sait que c'est une hérésie, maintenant, c'est dans mon cerveau, enfin, ça a une place dans mon cerveau, ça existe. Et rien que ça, en fait, c'est insupportable que ce soit ce concept-là qui ait gagné, enfin, selon moi. Bref, j'aimerais quand même qu'on revienne un instant Alice Coffin sur la campagne d'Yannick Jadot et sur son interview dans Elle. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, parce que moi, ça m'a rendu ouf. Qu'il aille là-bas pour dire chez moi, c'est moi qui repasse mes chemises. Moi, perso, ça m'a rendu ouf. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ?
Alors, vous voulez que j'ai des gros problèmes ben non, mais qu'est-ce que j'en ai pensé ? Que c'est catastrophique, évidemment. Oui. Mais par ailleurs, c'est pas mieux. Il y a eu, au-delà de l'interview qui est parue comme ça, il y a eu une soirée qui a été organisée, justement, à la fois par elle, je crois, et sur LCI. Et moi, je les ai trouvés, mais sur le féminisme, en fait, sur les notions de féminisme, mais Jean-Luc Mélenchon, je ne l'ai pas trouvé mieux. Hein. Je veux dire, ça veut dire qu'ils n'ont pas, au-delà de... Je pense qu'il y a une capacité à entendre, à pas les programmes, puisqu'on parle de féminisme, étaient solides, côté écolo, côté insoumis, il n'y a pas de souci là-dessus, ça va. Mais évidemment, ces hommes-là n'ont pas du tout intégré et réfléchi suffisamment... toutes ces questions-là. Donc oui, c'était c'est catastrophique, oui, ça a beaucoup énervé, mais c'est vraiment what did you expect, quoi. Je veux dire, moi, on a beaucoup glosé sur le fait que je lui ai demandé très directement, en ayant une conversation, de se retirer et de s'il était vraiment, et je le pensais vraiment, si vraiment les questions du féminisme ou d'autres questions lui importaient, eh ben dans ce cas-là, il ne devait pas être candidat.
Oui.
Et c'était très sérieux ce que je lui disais. C'était pas une question de les hommes doivent s'effacer par rapport aux femmes. Non, c'était vraiment très sérieux par rapport à une dynamique, par rapport à un ensemble d'enjeux. Et le fait que ça soit même pas audible, que ça soit même pas jugé comme une question pertinente, de même qu'il aurait été intéressant, je pense, de poser la question aussi à Jean-Luc Mélenchon ou à d'autres, de réfléchir si vraiment vous avez à cœur de changer les structures de cette, je pense vraiment, de cette 5e République qui nous font beaucoup de mal là-dessus. Réfléchissons aussi à qui vous envoyez à la présidentielle, et qui est quelque chose d'absolument fondamental, parce que ça façonne quand même les médias, le débat public, pendant plusieurs mois. Donc ça laisse aussi des traces.
Vous avez publié, Latifa Oulcuir, un recueil d'articles du Bondy Blog. Et dans ce livre, vous revenez sur une affaire, on parle des médias, du coup, ça me semble très intéressant. Vous revenez sur une affaire qui s'est déroulée en 2016, où il y a eu un bar PMU à Sevran, qui a été présenté dans le JT de France 2 comme interdit aux femmes. Or, avec le Bondy Blog, vous avez mené une contre-enquête et vous êtes rendu compte qu'il n'en était rien, qu'en fait c'était un cliché qu'avait véhiculé le journaliste. Peut-être qu'à l'instant où il était passé, il n'y avait pas de femmes et que, du coup, il en avait conclu que c'était interdit aux femmes. Ça a eu des conséquences dramatiques. La femme du patron a reçu des menaces de mort. Le patron, on imagine dans quel état il a été. Ses filles, pareil. Tout ça. Et puis en plus, surtout, on nous dit des choses complètement fausses à la télé, quoi. Les journalistes, quand ils vont sur ce terrain des quartiers populaires, vous avez le sentiment que certains ils viennent juste pour conforter leur cliché ?
Oui, clairement, hein, c'est pas nouveau. De toute façon, le Bondy Blog s'est construit sur cette critique-là, hein, des médias, de dire en fait il se passe autre chose que le fait divers ou que les voitures qui brûlent que vous venez filmer. Et c'est une réalité. Enfin voilà, là c'était en 2005. C'est une réalité qui est toujours existante. aujourd'hui, où effectivement, oui, enfin, certains journalistes viennent sur le terrain pour confirmer certains biais, pour trouver certains clichés qu'ils ont de la banlieue. Alors que ce soit dit, etc. Quand ils vont trouver en fait ce qu'ils viennent chercher. Il y a pas de, nous, on n'a pas de problème là-dessus. Quand ils veulent, enfin, ça dépend ce qu'ils veulent venir chercher, mais dans la plupart du temps, ouais, en fait, ils pourront décrire. Mais le problème, c'est que ils zooment sur un aspect en fait, et là, c'est dans des circonstances dans lesquelles il faut un peu dézoomer, regarder tout ce qui se passe autour. Et ouais, c'est toujours un souci. Donc ouais, je vais pas dire non plus que rien n'a changé, parce qu'il y a plein de journalistes, enfin, il y en a quelques-uns qui font extrêmement bien le travail, qui livrent des récits sur les quartiers populaires ou sur les classes populaires de manière générale, qui sont extrêmement pertinents et qui sont pas au Bondy Blog, évidemment. Donc les choses avancent un petit peu, mais pas suffisamment, et on le voit encore aujourd'hui ou pendant la campagne présidentielle, on a réussi toujours à stigmatiser une certaine catégorie de la population dont on sait en grande majorité où elle réside. Donc ouais, ça a avancé, mais ça reste toujours extrêmement compliqué.
Qu'est-ce que ça veut dire être de gauche aujourd'hui, selon vous ? Question difficile, hein, je sais. Je vous vois lever les sourcils, Latifa ou le
coup. Non, bah c'est parce que c'est très. C'est un peu paradoxal, parce que j'allais dire, ouais, c'est quelque chose de politique. En même temps, c'est très subjectif maintenant, j'ai l'impression. C'est-à-dire que chacun l'associe à certaines valeurs. Et quand on va dans des bouquins, ça se trouve, on retrouvera pas du tout celle-là. Moi, si je devais parler pour moi, c'est très lié à des notions de solidarité, de partage et de collectif, en fait. Tout simplement, c'est de c'est entre guillemets du bon communautarisme, parce qu'on nous a dit que le communautarisme c'était mal, mais là pour le coup, quand on appartient à la même nation, de société, etc. Mais c'est vrai, moi pour moi c'est vraiment des notions de partage et de solidarité, et j'allais dire bêtement ça va pas plus loin que ça, mais en tout cas si déjà il y a ça, il y a une grande partie de l'idéal qui est rempli.
Alice Coffin.
Oui, non, moi je suis tout à fait d'accord avec la définition sur un quotidien à titre individuel. Effectivement, c'est tenter de faire, enfin, il y a un choix à faire, de pas faire passer son seul intérêt en premier dans toutes ses actions de vie, et penser à l'intérêt général en gros. Et dans une donc ça c'est un choix individuel au quotidien, mais voilà, et puis que certaines personnes ne font pas, qui vont privilégier tout ce qui peut aller dans la satisfaction de leurs propres intérêts. Voilà, c'est des choix, et dans le champ politique, ça se traduit par penser des mesures publiques, des discours publics qui vont dans ce sens-là aussi, de l'intérêt général.
L'union des gauches est-elle possible maintenant ? Est-ce que ça nous aura vaccinés, vous croyez, là, d'être passé si proche ? Non ?
You wish. Non, est-ce que ça... Là, tout de suite, moi, des réactions que j'ai eues entre dimanche soir et ce matin.
Ah oui, racontez-nous les coulisses.
C'est-à-dire que oui, je le vois, c'est en tout cas, bon, moi, je suis du côté écolo. Très clairement, j'ai pas entendu de voix pour dire non, on y va séparément, etc. Je parle des législatives. Là, au moins, il faut une union. C'est très clair, avec des inquiétudes, évidemment, de dire même si la France insoumise va être extrêmement dure, va nous imposer des conditions, mais il faut l'union.
Ah oui, donc pour les législatives, il y a en création un grand groupe France Insoumise,
en tout cas,
écolo.
Très clairement, moi, je peux parler que, et je trouve que c'est toujours important, justement. Bon, j'ai des analyses, mais qu'est-ce qui se transmet directement, c'est une volonté, effectivement, et c'est le fait de dire les électorats ne comprendraient pas de toute façon qu'il n'y ait pas cette union-là. Donc au moins, mais je pense qu'il va falloir aller très vite, parce que pendant quelques jours, on a cette volonté-là. Mais je veux dire, c'est passé, il y a tant de fois où il y avait ça aussi, et on s'est retrouvés. Ça n'a pas du tout fonctionné. Le nombre de fois où ça n'a absolument pas fonctionné, donc je ne garantirais pas que ça va marcher cette fois-là encore.
Ouais, moi j'y crois pas du tout. Hein. Quand on sait à quel point sur le terrain c'est sanglant, les listes, alors municipales, législatives, etc. Genre c'est vraiment, enfin pour le coup, même journalistiquement, c'est quelque chose qui assure, qui est souvent extrêmement aberrant, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve, je suis presque basique, en fait. Je me dis, mais si au plan national, il y a deux personnes qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord, ou trois, mais comment on peut demander et espérer de ces militants ou de gens qui sont à la base, qui sont là, pour certains, qui sont tout à fait légitimes, qui se battent depuis des années et des années sur le terrain, de leur dire, ouais, non, en fait, ça va être lui. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Je sais pas que je suis la première à en être désolée, mais ouais, j'y crois pas trop. Et en plus, mais par contre, je dis pas qu'il y a pas, enfin, ce que ça a prouvé aussi, c'est que ce scrutin, je trouve qu'il y a pas forcément de gauche irréconciliable dont on parlait. C'est-à-dire que s'il y en a une, elle a été dégagée, en fait, elle fait pas partie de la grande majorité, mais il y a pas forcément.
Pensez au PS, la vieille gauche.
Ouais, voilà, c'est ça, qu'on se disait, ouais, en fait, il y a des lignes de fracture, bah, Printemps Républicain qui se réclame, pour certains, qui se réclame de gauche, mais en tout cas, des lignes de fracture sur des questions de société assez importantes, etc. Là, on se rend compte que c'est pas le cas. Puis peut-être c'est parce que ce dont on parlait avant, hein, quand on parle de la gauche, c'est essayer de penser à l'autre, et ben c'est un travail qui demande aussi de la remise en question finalement constante et de penser à tout le monde et se remettre en question tout le temps en disant peut-être que sur ces questions-là, je ne sais pas où je suis moins proche, que ce soit les questions de... Par exemple, les questions LGBT, les questions de minorité, c'est quelque chose sur lequel on est tout le temps, les questions d'islam et tout, peu importe quel, entre guillemets, bord on appartient, bah, c'est un travail intellectuel qui, ah ouais, d'accord, donc ouais, de discussion et tout. Donc on aimerait bien qu'il ait lieu pour les élections, mais ouais, moi je ne suis pas très optimiste.
Moi je suis très d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'au moins, et ça aussi je l'entends depuis quand même 3 jours de manière beaucoup trop tardive, mais les discours que j'entends maintenant chez les écolos, c'est... Bon, bah là, c'est très clair. Finalement, il y a une demande de gauche radicale, il y a une demande de gauche qui va avec les mouvements de lutte sociaux, féministes, antiracistes. Et ça, c'est vrai ce que ça valide. C'est-à-dire, puisque le score haut de la France insoumise, plus le score très très bas du Parti socialiste et des écolos, les écolos ayant choisi une ligne qui était celle précisément, voilà, de la sagesse, de la responsabilité et surtout du discours qui n'irait pas, qui n'était pas dans le sens d'aller avec encore une fois les luttes qu'on avait eues pendant le quinquennat et d'assumer aussi un discours, d'assumer le clivage, d'assumer de dire bah oui. Toute la société ne va pas être d'accord avec nous, c'est bien normal parce qu'il y a des gens qui précisément luttent pour l'inverse de ce qu'on défend. Il ne faut pas essayer d'aller les rassembler, ça ne va pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas la peine d'essayer de présenter une super image de « je suis propre, je réconcilie tout le monde », ça ne fonctionne pas ça. Donc allons chercher au contraire, rendons fiers et audibles un discours que les personnes portent en dehors des champs politiques, mais nous assumons. C'est ça quand même être politique, c'est avoir la chance. Et je pense que souvent ils ne se rendent pas compte. Quoi. Moi c'est ça qui me fâche le plus. Une campagne présidentielle, c'est une chance inouïe d'avoir à sa portée des dizaines de salariés, des millions de financements pour les partis qui peuvent le faire. Hein. Une plateforme numérique médiatique. Et moi c'est ça qui m'avait tant fâché sur l'occasion historique qui avait été loupée pendant la primaire écolo. C'est que là on avait la possibilité pour l'ensemble de ces luttes-là qui fonctionnent quand même d'habitude avec des bouts de ficelle. Hein. On s'en sort, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Là, tout d'un coup, on avait tout l'appareil, non pas encore d'État, mais d'une campagne présidentielle à notre portée, ce qui aurait été complètement... voilà. Et quand on a ça, et qu'on le vendange, quoi, qu'on s'en sert pas comme si « Oh bah oui, je peux parler dans les médias, pourquoi pas, qu'est-ce que je veux dire ?» C'est toujours extrêmement important, même ce matin, moi, à chaque fois que je viens, quand on a un micro, c'est quelque chose d'un privilège, mais inouï. Et une campagne présidentielle, ça permet vraiment, normalement, de changer une donne. Alors, je pense au moins ce qui a été compris, c'est qu'effectivement, les discours « ne fâchons personne, surtout, et restons très calmes », ça ne marche pas. Et aussi, j'allais dire, au point de vue écologiste, parce que c'est quand même absolument, la situation est catastrophique. Donc, on le voit, ça ne... Si enfin on peut comprendre que l'important c'est de lier, d'en faire un rapport de pouvoir, que les questions climatiques, les questions d'environnement sont des questions de rapport de pouvoir avant tout, et c'est pour ça qu'elles sont aussi liées à d'autres luttes, parce qu'elles ne sont pas autre chose, et de rapport de ceux qui vraiment vont dans un rapport de pouvoir qui irait vers l'intérêt général contre ceux qui défendent évidemment des lobbies et des intérêts beaucoup plus égoïstes, bah, si au moins ça s'était passé, je ne suis pas sûre qu'on réussisse à faire l'union des gauches, mais peut-être que ça va faciliter un petit peu l'arrivée dans le champ politique d'autres personnes.
Eh bah, c'est super, je suis contrainte de vous interrompre une petite poignée de secondes, on se retrouve tout de suite.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste ? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche ? Chez Binge Audio Édition, on sort Mécanique du privilège blanc, un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram Semblant de Rien, sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander comment changer le monde, réunir les gauches et enfin avoir une vie politique qui soit à la hauteur de nos rêves avec Alice Coffin et Latifa Oulkouer. Que répondre à celles et ceux qui seraient tentés par ce qu'on appelle la stratégie du chaos ? La stratégie du chaos, c'est le nom qu'on donne à une théorie selon laquelle si Marine Le Pen était au pouvoir, au moins ce serait la révolution. Qu'est-ce que leur répondre, Latifa Oulkouer ?
Que j'ai envie de faire l'ancienne que je suis pas, que sûrement qu'ils connaissent pas le chaos en fait. C'est peut-être, enfin moi je pense que c'est ça. Je comprends et franchement je n'entends que ça. Hein, je n'entends que ça autour de moi. Des gens qui disent ah non franchement c'est bon, ça y est, on en a marre, etc. Et donc ce que je peux entendre hein, parce qu'on demande souvent, enfin les lecteurs de gauche, on a l'impression que c'est comme les groupes à l'école, c'est celui toujours qui fait tout le travail. C'est ça qui se passe tout le temps. Et donc,
c'est exactement ça.
Ouais, c'est, tu vois, et il en a marre, en fait. Et il fait tout le temps tout ce qu'il faut, comme on lui demande de faire quand il y a besoin de faire barrage pour contrer l'extrême droite et tout. Et donc, voilà, il en a marre. Et c'est vrai quoi, j'entends beaucoup ça. Avec là, de plus en plus, je pense que dimanche s'éloigne et les gens s'intéressent un peu plus au programme de Marine Le Pen. Ils se rendent compte que bah, finalement, ouais, en fait, il y a une autre frange qui dit non, mais vous êtes cinglés, en fait. C'est pas tenable. Et c'est pas faisable. Et moi, je comprends les deux, en fait, les deux points de vue. Je comprends que ça crée ça. Mais ouais, c'est ce qui. Enfin, je m'attendais pas à ça, ou pareil, je m'attendais pas à ce que dans des quartiers populaires, etc., pas plus tard qu'hier ou avant-hier, on sort un article où on dit, ouais, quelqu'un nous dit, ouais, moi, je vais voter Marine Le Pen. Parce que ça a été complètement vidé de tout le. En termes même peut-être de communication, de tout l'aspect extrême droite. Juste le monsieur dit, bah, moi, pour la retraite, bah voilà, je vais voter Marine Le Pen. Et ouais, avec aussi énormément de difficultés à qualifier, à dire que c'est l'extrême droite. Voilà, pareil, hein, je sais plus, ouais, mardi cette semaine, j'étais à Château-Rouge, on a tourné une petite émission de radio, et ben voilà, enfin, les personnes qui étaient là, et pourtant des personnes âgées, etc., qui avaient plus de recul, qui disaient, ouais, non, je sais pas, on pourrait pas dire, je dirais pas qu'elle est raciste, mais alors beaucoup de mal à qualifier les choses. Et voilà, après, là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est médiatique. En fait, quel terme on a réussi à imposer, quelle image on a réussi à coller sur Marine Le Pen. Donc voilà, moi je suis pas, je comprends, mais je suis pas, je suis de moins en moins, on va dire, adepte de ce discours en fait. C'est-à-dire, allez, ou alors vous allez voir, elle va rien faire. Il y a aussi plein de gens qui disent ça. Hein. Non, mais c'est que du blabla et ou alors débarrassons-nous une bonne fois pour toutes. Alors, c'est quelque chose que j'ai entendu pas plus tard qu'hier soir, quelqu'un qui m'a dit, ouais, non, mais on élisons-la une fois, comme ça les gens ils vont voir, et après on sera débarrassés.
Quand on voit ce qui se passe en Pologne et en Hongrie, enfin, si on les élit une fois, après, ils restent. Hein.
Ouais, mais pour le coup, c'est un discours que j'entends, que j'entends pas mal.
Ok. Alice Coffin,
Oui, effectivement, en Pologne, en Hongrie, en Serbie. Moi, je travaille beaucoup avec des militantes de là-bas. Peut-être, c'est toujours pareil, de rappeler des informations aussi,
oui,
et les préciser. Je veux dire, moi ou Latifa Oulkouer, on est menacés de mort. Je rigole pas, je veux dire, si l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est des menaces de l'intégrité physique de très 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 nombreuses journalistes, militantes, élus, soit voilà, antiracistes, féministes, antifa, enfin il y a des personnes qui vont être très très concrètement, donc après attention, hein, il y a des gens qui ont le droit, si c'est ce que vous souhaitez, de nous voir nous voir frapper,
mourir. Non,
non, mais je veux dire, il y a des personnes qui vont voter. Parce que
oui,
voilà,
il y en a qui le font pour ça, en
conscience. Mais pour d'autres, juste de dire... Il faut poser les choses. C'est ça qui va se passer. Et moi, je l'ai vu très concrètement dans cette campagne présidentielle, le degré de violence, par exemple, au moment le plus haut, qui, finalement, où l'extrême droite a été le plus haut dans le récit médiatique, qui n'a pas été celui, finalement, de Marine Le Pen, qui a été au moment où toute la vague Zemmour, ça c'est vraiment, et de manière entièrement irresponsable, d'une toxicité hallucinante hein, de la part des journalistes, hein, vraiment de ce qui s'est passé à ce moment-là, sur Éric Zemmour, et qui a duré quand même plusieurs semaines, ça a été automatiquement, les menaces auxquelles, qui sont fréquentes, mais là, j'avais jamais vu ça. Le degré d'atteinte de la façon dont, du coup, les autres, tous les petits sbires et tout ça, ils se sentaient autorisés à aller attaquer. Donc c'est ça la conséquence directe. Et c'est ça l'extrême danger. Et ça ne nous permet pas...
Ça veut dire que tous les enfants racisés dans les écoles, ils vont se prendre 10 000 fois plus d'insultes, ils vont se faire tabasser. Tous les enfants homos, tous les ados, tous les adultes. Même. C'est-à-dire que toutes les catégories, les handicapés...
C'est pas un doute. Il n'y a pas un doute là-dessus. C'est une certitude. Si
c'est ça la
ça,
réalité,
voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Donc, encore une fois, il y a la nécessité de transmettre cette information-là. Et j'entends sur les idées de « oui, mais comme ça, si c'est le chaos, de toute façon, on réagira et ça provoquera une volonté de réaction très forte et une révolution. » Attention, parce que je veux dire ça, la révolution et la volonté de lutter contre ce qui se passe de l'État, je pense qu'elle était déjà là très fermement depuis très longtemps, et notamment depuis ce dernier quinquennat qui a fait passer des mesures horribles. On le voit déjà là. C'est très compliqué, c'est très compliqué. On a commencé l'émission comme ça, d'aller lutter, parce qu'il y a un contexte politique compliqué. Ça sera encore, les obstacles qui seront mis à cette lutte-là, ils seront 10 fois plus puissants. Donc je ne vois pas comment, si on n'y arrive même pas là, on peut penser qu'avec des libertés associatives encore plus menacées, des conditions de manifestation encore plus cadenassées, on y arrive. Attention aux leurres hein, là-dessus, je pense.
Si on additionne les votes Zemmour plus Le Pen, on arrive à 30% de la France qui a choisi de voter extrême droite. Alors je sais que vous n'êtes pas sociologue du vote, mais à votre avis, comment on en arrive à faire ce choix? Sauf que si on est profondément raciste, mais j'arrive pas à croire que 30% de la France soit vraiment profondément raciste. Peut-être que je me fais un leurre. Je pense qu'il y a quand même aussi une forme de désespoir ou de... Qu'est-ce que vous en pensez?
On est sur, 30% des électeurs qui se sont exprimés.
Oui, qui se sont exprimés, tout à fait, bien sûr.
J'essaie de prendre l'optimisme là où il est. d'une part, c'est vraiment... Enfin, pour le coup, c'est une question à laquelle j'ai pas forcément de réponse ou quoi, parce que pendant longtemps, voilà, on nous a dit ça sur les lecteurs Front National, oui, mais c'est des réseaux économiques, c'est le désespoir, c'est ceci, c'est cela. Mais... Non, je suis pas 100% d'accord avec ça. Et encore une fois, ce qu'on disait, c'est que je pense qu'on a juste, à plein d'égards, que ce soit pour Zemmour comme pour Le Pen, normalisé certaines idées. Et est-ce qu'on peut reprocher aux gens de se dire, bon, bah, finalement, toute la journée, je suis dans la télé, j'entends des mecs, en tout cas sur CNews, qui débitent les mêmes choses. Et bah, finalement, c'est peut-être pas si grave de penser ça. Et finalement, bah, ouais, ils sont d'accord parce que c'est ce que les autres ne peuvent pas dire, ils le disent, etc. Et ça crée ça. Et moi, aussi, toute journaliste que je suis, évidemment, j'en veux énormément aux médias à la place qu'ils ont laissé à Éric Zemmour. Je le disais déjà il y a quelques mois, en fait, avant même sa candidature. Pourquoi on parle de lui? Qu'a fait ce mec pour qu'on parle de lui? Avant même qu'il soit candidat, on en parlait, mais il a rien fait. Qu'est-ce qu'il a apporté? De quelle manière il a contribué à la société? Enfin, voilà, personne pour rappeler. Enfin, c'est juste il était journaliste pendant plusieurs années, il gagnait bien sa vie, bourgeois, voilà. Enfin, et c'est ça. Et j'en veux énormément là-dessus à la place qui a été donnée à Éric Zemmour. Soi-disant, il vendait. Soi-disant, mais à un moment donné, faut prendre ses responsabilités. Et là, je suis un peu.
Oui, des mecs qui vendent des bouquins, il y en a plein quand même.
Et puis c'est toujours un peu le truc, comme entre guillemets Le Pen était s'est trouvé normalisé, et ben c'était un peu le petit frisson du fasciste, quoi. Là, regardez ce qu'il a encore dit. Mais en fait, ça m'intéresse pas. En fait, moi, à un moment donné, ce moment-là, c'était super violent. Enfin, on allumait la télé, on ouvrait un truc, des citations de Zemmour qui vous insultent. Clairement, c'était ça, quand vous appartenez à une certaine catégorie de la population. Mais moi, c'était fatigant, quoi. C'est-à-dire psychologiquement, à un moment donné, j'étais non, mais vraiment, enfin, vous allez vraiment continuer à faire ça? Et là, il y a même pas de remise en question, de se dire bon, peut-être que effectivement on s'est planté. Ah oui, non, mais les sondages se sont trompés, c'est moins. Ouais, au début je me suis dit ouais, c'est une bonne nouvelle, il fait moins que ce qu'on avait prédit. Mais voilà, enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que ça dit des citoyens, mais ce que ça dit de notre système médiatique, c'est assez agaçant et inquiétant.
Il y a quelque chose, je pense, qui est très très juste dans ce que vous venez de dire, c'est le frisson du fascisme, comme s'il y avait une espèce de fascination voyeuriste pour se dire, oh là là, c'est de pire en pire, et il y a presque on a l'impression qu'il y avait presque une forme de plaisir à contempler ça. Alice Coffin.
Oui, mais ça c'est certain, et qui est de vraiment de faire suivre ça aussi, mais c'est aussi la façon dont on fictionne et dont on raconte la politique.
Oui, hein, le storytelling,
aussi,
tout ça.
Oui, qui est sous le mode, tiens, qu'est-ce qui va se passer, ce personnage-là, est-ce qu'on va avoir un climax dans la fin de cette série-là, et ce qui est proprement, encore une fois, un problème journalistique. Mais je pense que c'est essentiellement un des problèmes. Enfin, moi, je pense vraiment que ce qui se passe s'explique à 80% par la façon dont fonctionne le journalisme. C'est pas différent dans les pays de l'Est qu'on évoquait précédemment. Hein, les prochains, là, ils viennent d'avoir des élections en Serbie, où précisément Vučić a été réélu sur un programme extrêmement autoritaire, extrêmement... et avec une mainmise totale. Sur les médias, c'est la première chose qui se fait, et on le sait très bien en Russie, c'est pareil, c'est essentiel, c'est pas une petite composante qui expliquerait ça, c'est absolument majeur, et c'est absolument de la responsabilité. Enfin, je sais pas, j'ai écrit toute une partie de mon livre là-dessus, sur la médiocrité de ce qui se passe dans les rédactions sur ce sujet-là. Donc après, heureusement, il y a d'autres choses, il y a le Bondi Blog, il y a aussi d'autres. Il y a des journalistes, il y a ici, qui ça ne veut pas dire que.
Oui, bien sûr, on est loin d'être mainstream encore, hélas.
Mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, et quand je vois, mais là encore, même sur les réactions journalistiques, si on parle d'actu, mais qu'est-ce que c'est? Ça ne réagit pas là que ce soit les candidats qui choisissent les journalistes pour le débat présidentiel.
Mais bien sûr.
Mais comment ça se fait? Et alors, Gilles Boulot et Léa Salamé qui sont choisis, ils ne disent pas un mot là-dessus, ils ne peuvent pas dire non, attendez, ok, je suis ravie d'entreprendre, mais si c'est au défaveur ou parce qu'il y aurait un favoritisme qui serait donné, c'est hors de question. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, là encore, leur colonne vertébrale journalistique et la façon dont ça peut s'opérer? Après, sur...
Mais même le fait que Macron refuse de participer à un débat quand il était... Enfin, c'est dingue! Pourquoi, de quel droit il peut refuser aussi de participer au débat?
Il est interviewé, on le voit, parce que son truc, on le voit...
Il a pas le choix, il est candidat, il participe au débat,
et en
quand
plus,
même!
Comment ça se passe? C'est-à-dire que là, on le voit, sa méthodologie de campagne, c'est d'aller au contact directement avec la population, tout ça, et puis on voit, il se prend des questions qui sont... Mais pourquoi c'est pas les journalistes qui posent ces questions?
Pourquoi ça doit être des gens, des badauds qui l'interpellent?
Comment ça se fait qu'on n'ait jamais des questions? Je pèse mes mots quand je dis jamais. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un tel décalage entre les slogans qu'on lit dans les manifestations, les cris qui sont poussés contre la politique d'Emmanuel Macron et la façon dont il a interviewé. Sinon, ça ne fonctionne pas, si ça ne se retrouve pas journalistiquement, si on n'a pas effectivement ce qu'ils appellent des corps intermédiaires, enfin, s'il n'y a pas des gens dont c'est le métier d'interviewer, et parce que c'est pas vrai, les face-à-face, c'est des faux face-à-face, et effectivement, et c'est complètement asymétrique. Lui, il arrive derrière, soit avec ses supporters, soit avec des caméras, soit avec la maîtrise du verbe, soit avec le fait qu'il soit en position d'être président. Donc on est dans une inégalité de discussion qui normalement est rattrapée dans une conversation ou une interview journalistique précisément, sauf que ces questions-là n'apparaissent pas. Depuis 5 ans qu'on ne les lui pose pas. Donc c'est un énorme problème, et ça favorise évidemment, et on revient encore à ça, un sentiment d'impuissance totale.
Ouais, et puis en plus, ce qui est super...
Latifa ou queer.
Ouais, moi, qui me peine, hein, vraiment, quand on voit, quand il est en face de Badaud, etc., c'est comment la colère des gens, et la colère légitime des gens...
J'ai dit Badaud, pardon, c'était peut-être pas le meilleur terme.
Non, mais voilà, c'est des citoyens lors de ces visites, etc., et qui sont vraiment, pour certains, qui ont une colère vraiment légitime, en fait, qui attendent des réponses, et qui ont, quoi qu'on en dise, évidemment, des attentes vis-à-vis de leur président, et comment, en fait, non, voilà, ce rapport asymétrique-là qui était évoqué, et ben, ça disparaît, en fait. On voit quelqu'un qui est super en colère et un président en face qui rit.
Exactement.
Quand on prend un peu de recul, c'est ça qu'on voit, un président qui rit et qui le traite de fou.
Oui, de fou,
en fait. Enfin,
c'est sur le monsieur qui lui dit vous n'avez rien fait pour l'hôpital public.
Oui, voilà, c'est ça. Qui dit vous êtes le plus nul de la 5e République.
Et il dit mais vous êtes fou.
Oui, voilà, ouais. Après, ce monsieur qui s'avère être aussi pas forcément pro-vax, etc. Mais bref, quoi qu'on en pense, en fait, c'est des opinions. Et en fait, on ressent la colère de ce monsieur. Et en face, mais en termes d'image, mais je me dis mais comment ça peut passer ça et comment il peut se comporter comme ça en face de quelqu'un de la même manière quand il se retrouve en face d'une femme voilée et qui lui demande comme ça vous avez choisi ou on vous l'a imposé ? Avec plein de gens autour, etc. Et ah bah ouais, vous êtes voilée.
Et la violence de ça,
ouais,
c'est...
Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment... Enfin, on est où, là ? Et est-ce que c'est un président ? Enfin, est-ce que c'est... Je suis pas partisane des gens qui disent « Ouais, non, le président, quand même, faut... » Enfin, mais là, en fait, j'ai pas l'impression qu'il se comporte comme un président. J'ai pas l'impression qu'il se comporte comme le président qu'il devrait être. Et si on reprend la 5e République, la posture qu'a le président, c'est-à-dire une posture d'arbitre qui est au-dessus des autres, presque. Et même s'il est en campagne là, c'est pas ce qu'on a, alors que c'est presque ce que la période... Enfin, on aurait besoin de ça, on aurait besoin d'un président qui soit vraiment dans cette posture de président, quoi qu'on en pense, mais qui soit dans cette posture un peu d'arbitre et qui surplombe un peu tout le monde. Le problème, là, c'est que lui, il a l'impression de surplomber tout le monde, mais que d'arrogance, en fait. Que d'arrogance, que de mépris. Et vraiment, ces images-là, elles sont super dures à voir juste en tant que citoyen, parce que ouais, il y a l'impression que c'est pas pris en compte et l'impression qu'ils ne mesurent pas le degré de détestation qu'il peut y avoir chez certaines personnes.
Mais parce que je suis tout à fait d'accord. Et si on voit, alors ça va peut-être 15 jours dans cet entre-deux-tours, mais ces premières journées-là, c'est la confrontation directe Macron avec des personnes qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas une légitimité sur laquelle ils peuvent s'asseoir, autre que d'être là en face des caméras quand il fait son tour. Moi, je ne comprends pas, et il y a aussi une responsabilité des politiques, des responsables associatifs et tout ça. Pour moi, le premier truc à faire, c'était on demande des rendez-vous à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que dans chacun, dans leur champ de compétences, on dit « Ok ». Tu veux notre vote ? Tu veux qu'on vote ? Vous voulez qu'on vote pour vous ? Alors, les associations féministes doivent aller voir Emmanuel Macron avec une liste de demandes en disant si on vote, il n'y a pas de Darmanin au gouvernement, il n'y a pas de ministre mis en cause pour agression sexuelle ou hostile à MeToo dans ce gouvernement-là. Il y a des budgets pour les assos. Les associations qui défendent les questions climatiques doivent y aller en disant toutes les mesures de la Convention citoyenne seront appliquées. On ne sait pas ce que ça vaudra s'ils signent des choses comme ça. On ne sait pas. Mais au moins, ça sera un engagement. Moi, il y aura aussi, c'est toujours pareil, une notion d'information. En disant voilà pourquoi vous allez voter, vous choisissez. Vous pouvez aussi vous dire que c'est plus grave encore d'avoir l'extrême droite que d'avoir ça. Mais au moins, il y a l'information qui est disponible et il y a une demande de responsabilité d'être comptable de quelque chose. Et là, c'est le boulot aussi. Que doivent faire, encore une fois, les associations, les responsables de gauche ? Pourquoi ? Parce que si on veut vraiment faire le barrage contre ce qu'on appelle ça, ce qui se passe, le souci, qui anime certains et certaines avec raison, c'est qu'en 2017, c'est ça qui s'est passé. On a dit, ok, on y va, et malgré le mépris de Macron pour dire qu'il n'y a pas eu de Front républicain, évidemment que c'est ce qui s'est passé. Or, on le voit, 5 ans plus tard, l'extrême droite, elle est plus haut, elle est encore plus haut. Donc, ça ne fonctionne pas de renouveler un blanc-seing qui serait donné à Macron. Et il faut absolument l'obliger, parce que sa politique est aussi, évidemment, une manière de favoriser, d'un facilitateur de cette extrême droite-là. Donc, notre boulot, et c'est pour ça qu'il est très compliqué, c'est évidemment d'aller voter contre cette extrême droite-là, mais aussi de tordre la main, enfin ça s'appelle du rapport de force, à Emmanuel Macron, et ça va évidemment se faire aux législatives, sur le champ politique, ça va aussi se faire dans la rue et tout ça, mais ça va évidemment se faire aux législatives, mais ça peut aussi se faire dans l'entre-deux-tours.
Oui, dans les négociations.
Pardon, ça s'appelle faire de la politique. Qu'est-ce qu'ils font là ? Elle est où la politique ? Pourquoi est-ce qu'ils y vont pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des demandes de rendez-vous ? Et comme ça, pourquoi je dis aussi des demandes de rendez-vous ? Parce que ça installe aussi un récit médiatique, c'est-à-dire, ah, ils sont allés à l'Élysée, ah, on les a vus, on est sortis, et ça installe un autre récit médiatique où on peut remettre de la parole de gauche, remettre de la parole militante dans cet entre-deux-tours et plus qu'elle soit seulement parole en marche, parole Rassemblement National.
Et on voyait signal en fait à ceux qui se sont mobilisés pour voter à gauche pour une première fois, qui sont complètement déçus. Et là où je me dis, ouais, ça va être difficile, c'est des gens souvent qui votaient pas forcément, là qui sont allés pour leur dire non, mais ça a servi à quelque chose là tout de suite, quoi. C'est même pas en juin, ça a servi. C'est là tout de suite, ça a servi à quelque chose et ça donnait une légitimité à certains militants.
Et ça, personne le fait, aller demander dans l'ombre justement des conditions et pour après conditionner son appel au vote, ça, personne le fait.
J'espère qu'il y a des personnes. Et vraiment, moi je pense qu'il faut des listes très simples, c'est-à-dire aussi
des conditions très simples.
Alors, encore une fois, en faisant de la politique, politique, c'est-à-dire en allant visant des électorats, par exemple, en disant « Et pour les profs, alors, toutes vos histoires de libération totale du système de l'école publique que vous nous avez laissé entrevoir, vous y renoncez ?» Ou pas. Et ça, ça doit être une des cinq mesures dans le, voilà, des quatre, cinq mesures qui sont dans la liste. Et si c'est pas encore fait, j'espère. En tout cas, moi, j'ai poussé pour que ça soit fait de la part de responsables de gauche. Et j'espère que ça va être fait. Mais bien sûr, enfin, ça me semble indispensable qu'il y ait ces rendez-vous-là. Ouais.
Est-ce que vous allez être candidate aux législatives, Alice Coffin?
Pour l'instant, là, en tout cas, moi, j'avais essayé. J'ai fait. En gros, mon boulot, ça a été de faire vraiment d'essayer d'abord que d'autres des candidatures, notamment antiracistes, notamment de personnes racisées, puissent être candidats. J'ai réussi à faire investir trois personnes. Donc je suis contente, c'est déjà. Mais avec quelle lutte et tout ça, et parce que pour moi c'est une priorité. C'est-à-dire qu'on dit aussi union de la gauche, très bien. Mais alors, si c'est pour nous replacer les mêmes personnes et que ce soit toutes des personnes qui ressemblent à Jean-Luc Mélenchon ou à Yannick Jadot, c'est non. C'est-à-dire que le boulot aussi qu'il va falloir faire pendant ces cinq ans, c'est de faire accéder à l'Assemblée nationale des personnes qui, soit dans leur implantation de territoire géographique, leur implantation de territoire imaginaire, j'allais dire, amènent d'autres gens à la politique. Parce que c'est ça quand même qu'il faut refaire. Et les ramènent en disant, vous voyez, vous êtes représentés aussi, vous avez quelqu'un à l'Assemblée, donc j'espère qu'ils ne vont pas choisir n'importe qui non plus pour aller sur leur liste. Alors, et pour répondre plus précisément à la question, moi, l'investiture, les écolos, ils n'ont pas voulu que je sois candidate. J'avais proposé ma candidature, donc non, je n'ai pas été jusqu'ici investie aux législatives. Mais après, je ne sais même pas si j'y tiens encore. Moi, je n'avais pas un truc absolu d'être députée. Encore une fois, ça m'intéresse d'aider d'autres. Ça m'intéressait en revanche de faire la campagne. C'est-à-dire pourquoi je voulais y aller. Mais pour aussi avoir un espace, je reviens sur l'importance que c'est une campagne et que ça permet d'avoir une légitimité de la parole, d'être entendu, de faire des réunions. Et la proposition que j'avais faite au début aux écolos, c'est de dire OK, très bien, bon, vous avez fait ce très mauvais choix de mettre Yannick Jadot comme candidat et à la direction du parti, à la direction de la campagne, de leur dire écoutez, de toute façon, vous savez que il y a toute une part de l'électorat. Ils voteront jamais pour Jadot, ils voteront pas pour plein de raisons, parce qu'il était à la manif des policiers, pour plein d'autres raisons. Donc laissez-nous, faites votre campagne présidentielle et donnez à, en gros, tout ce qui va autour de Sandrine Rousseau, donnez-nous les campagnes législatives et on y va sur le terrain et on ramènera aussi, même stratégiquement, électoralement, on vous ramènera d'autres gens qui, si ils veulent bien voter pour tel ou tel candidat,
oui, même cyniquement, ils auront un intérêt.
Voilà, exactement. Voilà. Bon, ça non plus, c'est pas accepté. De toute façon, mais vraiment, la nullité, quand j'ai dit vraiment la nullité, qui a un petit groupe d'hommes qui ont fait les décisions, comme ça, ils étaient 4-5, ça concerne pas du tout tous les militants écolos qui étaient géniaux.
Parce que là, ils entravent en fait ce parti.
Mais moi, je suis pas encarté.
Pardon, là,
mais moi je suis pas. Ouais. Non, justement, moi j'ai pas de souci avec ça. C'est-à-dire que moi je suis pas encartée et parce que j'ai pas envie d'être.
Avec Sandrine Rousseau, vous n'allez pas créer votre mouvement.
Après, il y a une réflexion à avoir, évidemment, sur des faire exister politiquement, mais c'est en train de se construire, ça. C'est pour ça que c'est important aussi la victoire là, de l'Union Populaire. Encore une fois, si ça a pu marcher.
Vous n'avez pas regretté de les avoir rejoints quand ils vous ont fait des appels du pied ? Ils vous ont fait des appels du pied à un moment, enfin à Sandrine Rousseau en tout cas.
Ah non, mais moi je suis pleinement investie dans les équipes autour de Sandrine Rousseau. Ça, c'est
oui,
évident,
mais, hein, oui, bien sûr, oui, voilà. Mais à un moment, la France Insoumise a fait un appel du pied quand même à Sandrine Rousseau. Ouais.
Est-ce qu'il aurait fallu. Ouais, c'est une question. Est-ce qu'il aurait fallu dès le départ aller. Moi, je pensais que c'était plus intéressant pour un basculement. Parce que
de lutter en interne.
D'aller en interne et d'essayer de dire voilà, il y a un basculement nécessaire et de le faire comme ça. Mais bon.
Alors, on va bientôt devoir se quitter, mais j'ai envie de vous poser à toutes les deux une question. À votre avis, comment est-ce qu'on peut essayer de compenser, comme on compense ces émissions carbone, son vote Macron ? Est-ce qu'il faut faire un don à une asso féministe ? Est-ce qu'il faut adhérer, je sais pas, à un parti ? Est-ce qu'il faut planter un arbre ? Enfin, moi, j'ai envie de compenser mon futur vote Macron. Enfin, c'est une idée que j'ai comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Pour les gens, ouais.
On peut faire un don au Bodyblog, par exemple.
Oui, ouais, effectivement. Ça c'est possible tout le temps. Ouais. Et puis pour les gens qui votent Macron, pas par évidemment conviction, peut-être ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, mais le concernant quoi. Il avait dit lisez-moi et combattez-moi. Pour les gens qui veulent, qui votent pas Macron par conviction, lisez-le et combattez-le.
faut continuer à convaincre, à se battre, à diffuser.
Oui, voilà, je pense qu'il y aura plein de moments où il va falloir
descendre
dans la rue.
C'est quoi qu'il a dit? C'était beau d'ailleurs quand même. C'est pas tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais son discours.
Je sais plus du tout. Mais en tout cas, ça m'avait. Voilà, je me dis, bon, bah là, en fait, ça s'applique plutôt à Macron. Et voilà, que les gens s'organisent autour d'eux, qu'ils descendent dans la rue quand il va falloir descendre dans la rue, qu'ils fassent tout ce qui est nécessaire et tout ce qui aussi a fait la grandeur de ce pays à plein de moments, pas forcément lointains. Mais voilà, user de ce pouvoir-là. De mobilisation, d'organisation et savoir que les choses aussi se construisent dans la durée. En tout cas, les choses aussi qui durent longtemps et qui sont solides se construisent dans la durée, à l'inverse de ce qu'a fait Macron, hein, où il s'est révélé super vite et où on voit que tout est fragile et sans colonne vertébrale, encore une fois.
Alice Coffin.
Eh ben, je vous propose deux actions à faire. Ce vendredi soir, il y a Fatima Wassak qui organise à Bagnolet, dans Verdragon, une réunion pour organiser. Ça me semble très important aussi, malheureusement, à faire. Les stratégies de résistance et de se préparer. Si l'extrême droite devait passer, et ça j'encourage tout le monde à le faire, parce qu'il faut. Enfin,
c'est-à-dire
il y en a qui le font depuis des années. Hein. Moi je sais que dans certains cercles lesbiens, tout ça, il y a des réflexions depuis des années, dans des cercles antiracistes aussi, parce que sinon on ne doit pas arriver complètement dépourvu, parce que ça peut arriver. Et donc il s'agit effectivement se préparer. Et puis venez en nombre à la marche lesbienne du 23 avril aussi.
C'est noté. On note vendredi soir à Bagnolet avec Fatima Wassak et la marche lesbienne du 23 avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était passionnant de vous écouter. Mes très chers amis qui nous écoutez, ne lâchons rien, ne désespérons pas. On va finir par y arriver. C'est déjà la fin. Un grand merci d'avoir été avec nous. Et merci, chers auditoristes, d'avoir été avec nous aussi. Ne désespérons pas, ne lâche rien. Nous restons soudés, nous restons ensemble. Merci à nos invités Alice Coffin et Latifa Oulqueer. Merci à nos chargée de production Charlotte Bex et Lauren Bess. Merci à notre réalisateur Thomas Chalvidal. On peut plus rien dire, c'est le podcast de débat de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et tenez bon, courage, à très vite.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.